Et aujourd'hui, je voudrais que nous voyions le passage, ou un des passages, qui correspondent avec la journée d'aujourd'hui. On célèbre souvent cette journée comme la fête des rameaux ou comme le dimanche des rameaux, parce que dimanche, avant la crucifixion de Jésus, des gens prenaient des rameaux et qui lançaient des rameaux devant Jésus. Le passage que nous avons écouté tout à l'heure était long, et ce passage est un tout petit peu long aussi, mais je suis content que nous sommes une église où la parole de Dieu est lue, sachant que certains de vous, vous avez entendu, vous allez entendre la seule lecture que vous allez entendre dans la semaine. C'est dommage. Mais si vous n'avez pas une Bible, et ça c'est votre problème, demandez-moi après. J'en vous donnerai une et suggérerai plusieurs passages à lire pour que tous les jours la parole de Dieu ait une partie de votre journée, parce que la foi chrétienne, la quotidienne chrétienne est basée sur la parole. Et je dis la parole de Dieu, ça sorte comme une étiquette, un entêtement, parce qu'on le dit très souvent. J'aurais pu dire les mots de Dieu, le Père, les mots de Dieu, le Fils, les mots de Dieu, le Saint-Esprit, ont été lus tout à l'heure. Et Jésus va parler encore, maintenant, dans notre passage, en Luc 19, à partir du verset 28. Essayez de ne pas suivre le train. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagé et de Béthanie, vers la montagne appelée Montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant, « Allez, au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis, détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Vous répondrez, le Seigneur en a besoin. » Verset 32. Ceux qui étaient envoyés à l'heure et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dit, « Pourquoi détachez-vous l'anneau ?» Il répondit, « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens entendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque des Juifs il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, ce n'est pas à dire les 12, mais tous ceux qui croyaient sont appelés disciples. Multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans les cieux, gloire dans les lieux très hauts. Ça fait penser des anges, n'est-ce pas, à sa naissance? 39. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Jésus répond, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en le voyant, pleura sur elle, et il dit, « Si toi aussi, Jérusalem, au moins en ce jour qui t'est donné, si toi tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où des ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ça termine avec une sérénité très, très solennelle, n'est-ce pas? Le jour de Rameaux, c'est une jour de joie. C'est une journée où nous célébrons ce que les gens célébraient correctement, ne sachant pas que même beaucoup qui criaient « Hosanna » va terminer par crier « Crucifiez-le ». Beaucoup de ceux qui criaient ce jour-là « Hosanna » parce qu'ils connaissaient les miracles qu'il avait faits, vont terminer 5 jours plus tard par crier avec une voix très forte, avec toutes les autres personnes autour de lui, « Crucifie-le ». Mais ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus-Christ et « Hosanna, béni celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient ». Intéressant que certaines traductions viennent « béni soit le roi », que ce soit le règne, que ce soit la loi, tout le monde reconnaissait que c'était le règne, que Jésus-Christ était le roi. Quand nous prions « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite », nous prions deux souhaits très forts qui va au-dessus de chaque prière que nous pourrions jamais prier. Parce que les 6 requêtes ou les 6 souhaits dans le Notre Père est une couverture pour diriger, pour former la prière, pour enlever certaines choses qui ne devraient pas être là parce que le nom de Dieu n'est pas glorifié, le règne de Dieu n'est pas voulu, et la volonté de Dieu n'est pas voulue dans cette prière. Ô Seigneur, pardonne nos prières. C'est une bonne prière à prier quelquefois, de ajuster nos prières au Notre Père qui glorifie Dieu, qui est dans le but que son nom soit glorifié, autorité soit établie, pas simplement éventuellement, mais dans ma quotidienne aujourd'hui. Avant que je quitte ma maison, je mets mon manteau qui dit « J'appartiens à Jésus, mon roi. » C'est lui qui va diriger ma vie à 8h, à 9h, à 10h, devant mes tentations, devant mes activités de la journée. Béni soit celui qui vient, le règne de David. Est-ce qu'il se passe ? David, notre Père, Hosanna dans des lieux très hauts. Mais Jésus sait que j'ai des gens qui criaient pour lui parce qu'il avait guéri le lèpre, il avait guéri les aveugles, il avait guéri les muets, il avait fait marcher les boiteux, il avait chassé des mauvais esprits, il avait calmé la tempête, il avait marché sur l'eau, il avait donné à manger à 5 000 personnes une fois, il y a 4 000 personnes avec quelques petits morceaux de pain et quelques petits poissons. Oui. Le roi, c'est celui que nous cherchons, C'est celui que nous voulons qui soit notre roi. Et Jésus disait, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranches, t'enfermeront, te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps que tu as visité. Jésus dit, le jour viendra, dans moins qu'une génération, où Jérusalem sera envoyée et les massacres des crucifixions qui auront lieu, et l'histoire nous montre que Jésus-Christ n'était pas la seule personne crucifiée avec deux autres personnes à côté de lui, mais c'était une manière que les Romains avaient cultivée pour perfectionner le maximum de douleur sur le plus longue espèce du temps avant que quelqu'un expire, parfois durant jusqu'à une semaine, 5 jours, 3 jours n'était pas incommun du tout. Jésus, 6 heures, gloire à Dieu. Mais des milliers de Juifs sera crucifiés en quelques petites années. Et Jésus, au même temps que les gens crient, Jésus pleure, parce que Jean avait déjà dit, Jésus-Christ est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. En gros, très peu de monde ont reçu Jésus. Oui, beaucoup de monde regardait de loin et disait, « Ah ah, on veut quelqu'un comme ça, comme notre Messie. On veut un Messie qui donne à manger. On veut un Messie qui garantit qu'il n'y aura plus de chômage. » On veut quelqu'un comme ça. Cet homme, il a beaucoup de promesses. Il paraît être quelqu'un de très, très, très capable, doué avec certains dons extraordinaires, même surnaturels. On veut quelqu'un comme lui. La raison exacte qui montre la superficialité de leur fidélité et de leur réception de Jésus-Christ, parce que en 5 jours où Jésus sera crucifié. Ils auront voulu qu'il soit crucifié parce qu'un Messie ne s'est pas crucifié. Impossible qu'un Messie soit mis sur une croix sans aucune puissance de se défendre. Des Messies ne vivent pas, ils ne meurent pas comme ça. Ce n'est pas la première fois que nous avons été trompés. Peut-être c'était le pire de fois que nous avons été trompés, mais nous avons été trompés. Et nous ne voulons que la crucifixion pour cette personne. Ça, c'était la mentalité. Ça, c'est la mentalité jusqu'à présent. De certaines personnes qui veulent un Jésus qui peut le faire sortir de leurs difficultés, qui peut le dépanner, qui peut le remettre sur la bonne route pour qu'il puisse recommencer de établir leur réputation en chaos ou leur compte financier qu'ils avaient par des bêtises ou par autre manière tout perdu pour recommencer à zéro. On veut un Dieu qui peut me remettre bien à côté à condition qu'il reste dans le coffre comme un pneu de secours pour qu'il soit toujours prêt quand j'aurai besoin parce que c'est moi qui serai au volant. Dans aucune condition est-ce que je veux me mettre à côté pour que Jésus soit derrière le volant. Ça, c'est l'état de l'humanité pour qui Jésus-Christ est venu pour sauver. Et la raison pour laquelle Jésus, sachant que son temps est venu, est allé à Jérusalem pour... Nous voulons voir... Oh, encore un autre verset... Romains 9, 32 pose la question pourquoi? Parce que Israël a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Les versets qui précèdent parlent du fait que Israël avait rejeté la justice de Dieu. J'ai eu l'occasion cette semaine de parler, c'est une chose que j'ai occasion très souvent, mais de parler de la justice de Dieu, de reconnaître de nouveau pour moi-même ce conflit entre la justice de Robert et la justice de Dieu, parce que la justice de Robert voit ce qui est bon pour Robert, même au prix de voir la justice des autres comme en deuxième place. La preuve, à chaque fois qu'on se met en dispute, en conflit, parce que vous avez marché sur mes doigts, ou je suis marché sur vos doigts, on commence à se disputer, et chacun remonte, déclare la raison pour la supériorité de sa justice par rapport à la supériorité de l'autre. C'est toujours le cas dans un conflit entre deux personnes. Je suis fâché contre toi parce que tu le mérites. Tu as été injuste. Moi, un peu peut-être, pas autant que toi, ça c'est sûr. Ça c'est établi avant que l'événement, établi avant que le conflit arrive. Ma justice, je protège à tout prix. Et quand Jésus arrive pour dire, non, ta justice n'a aucune valeur devant la justice de Dieu. Les Juifs, les pharisiens, les leaders du peuple rejetaient cette horrible description de leur faillibilité, de leur vulnérabilité, de leur état pécheur, de leur état qui a mis avec sur le même niveau de toute la population. Et chaque personne est comme ça. Israël a cherché, non par la foi, mais comme provenant de les œuvres qui se manifestaient comme bonnes, à cause de cela, ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Quelle était la réponse de Jésus? Je voudrais que vous compreniez que Jésus n'était pas insensible quand il était sur cet anneau, quand tous les gens étaient en train de crier « Gloire à Dieu !» et « Le règne de David enfin arrive comme il a été prophétisé depuis 700 ans !» Jésus n'était pas insensible de ce qui arriverait. Il savait exactement ce qui arriverait. Il savait que les gens qui criaient maintenant seraient tournés contre lui, mais nous lisons comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Jésus pleura sur la ville. J'ai dit tout à l'heure, on lit à plusieurs reprises que Jésus pleurait. Nous ne lisons jamais que Jésus riait. Jésus pleure quand il regarde ce qui se passe autour de lui. La ville de Jésus, il est venu sur le sien. Mais les siens ne l'ont pas reconnu, ils n'ont pas voulu le reconnaître. Ils ont absolument tourné contre ce petit paysan qui vient du pays avec un accent de paysan non cultivé, non cultivé, et qui s'établissent comme un grand rabbi au-dessus de eux-mêmes et qui commencent à être appelés par des autres personnes. Le grand Messie qui avait été prévu par Moïse depuis 2000 ans. Impossible que leur orgueil puisse digérer ça. Jésus savait exactement ce qui passerait, que presque sans exception, les foules qui criaient sera les gens qui vont crier de nouveau en colère et haine contre lui, et il pleure. Ce verset, souvent utilisé par certaines pour dire, ça c'est la preuve que Jésus n'était qu'un homme ordinaire, qui n'était pas tout puissant, qu'il qu'ils voyaient que les choses n'allaient pas bien, ou peut-être ils pensaient qu'ils allaient bien, mais de toute façon, il avait d'autres raisons, parce que son agenda était peut-être menacé ou peut-être mis en route, mais il pleure. Donc il constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il pleure, sachant ce qui va arriver, et s'il pleure, sachant ce qui va arriver, ça veut dire il avait ses grands rêves, mais les choses tournent de mal en mal. Il va terminer par rater. Toutes ses bonnes intentions vont tomber dans l'eau. Et donc, Jésus pleure. Ô Jérusalem, si toi aussi, au moins de ce jour qui t'est donné, si tu connaissais les choses qui appartiennent à la paix, oh, si seulement vous connaissiez ce que c'est la paix. Qui c'est qui ne veut pas la paix? La paix subjective, Jésus savait, arrive quand on fait la paix objective, réconciliation avec leur maître et roi. Oh, si tu connaissais, ô Jérusalem, si seulement tu connaissais, oh, si seulement tu... Je ne sais pas si prier ça à plusieurs reprises, probablement ce n'était pas une seule sortie de sa bûche une seule fois, probablement il priait ça, les gens entendaient cela, pendant qu'il criait avec joie, il pleurait avec tristesse. Si seulement tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, ces choses sont cachées à tes yeux. Trois choses que j'aimerais que nous notions ici, dans cette réponse, dans cet événement plutôt. La première chose, nous voyons que la foule loue Dieu pour les miracles que Jésus avait faits. Il est noté ça, si vous avez vos Bibles toujours ouvertes. Et notez ça en verset 37. Lorsque Jésus approchait Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude saisie de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait fait vu. Imaginez une élection en France, où vous avez une personnalité comme celle de Jésus, qui est plein de humilité, qui est très franc et ouvert, qui guérit toutes les personnes qui sont malades, qui donne à manger ceux qui ont faim. Et il est ici, il est à Paris. Il n'a jamais montré quelque chose à la grande population, qui n'était moins qu'un homme presque parfait. Personne n'est parfait, mais lui presque. Il était parfait. Mais sachez que personne ne voyait ne voyait Jésus comme divin. Il ne voyait pas cette prophétie qui dirait que la divinité, Dieu lui-même, descendrait sur la planète, mais il allait envoyer quelqu'un presque divin, mais quelqu'un qui était inférieur, mais pas Dieu. Et donc, il n'était pas parfait, mais il était quand même presque parfait. Et les gens avaient cette mentalité. La foule regarde Dieu. On a plusieurs indications de la souveraineté de Jésus-Christ dans cet événement. Premièrement, c'est la foule qui, depuis plusieurs années maintenant, ayant vu sa manière de se comporter, son humilité, ses guérisons, et surtout ses guérisons, et surtout les choses matérielles qu'il avait pourvues, voyant cela, ils reconnaissent quelque souveraineté dans cette personne. Imaginez que cette personne gagne les élections, en France, à Jérusalem, où que ce soit, on sera presque prêt à juste dire, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. On existe maintenant, il me semble, pour être contrarié à celui qu'on a voté. Nous sommes là pour voter, mais le jour après, on est prêt à le faire, à tirer dessus, n'est-ce pas? C'est souvent le cas. Parce qu'il n'arrive jamais à exaucer nos attentes. On a des attentes très élevées, mais on n'a pas des attentes qui donnent à manger à tous les Parisiens avec quelques morceaux de pain chaque soir. Et qui songent ça en très, des bonnes casseroles, etc. Qu'il aurait pu faire, n'est-ce pas? Mais nous voyons cela d'abord dans ce qu'ils disaient, et nous voyons ça deuxièmement dans le fait qu'ils exaltent comme le roi, comme celui qui est venu pour régner, comme la personne qu'il cherchait depuis des années. Regardez, si vous voulez, vous avez le courage de tourner en Ésaïe chapitre 9, verset 6, parce que je n'ai pas mis sur l'écran. Mais en Ésaïe chapitre 9, et verset 6, donne à l'empire de l'accroissement une paix sans fin au trône de David et à son royaume. 700 ans avant Jésus-Christ, attention, Ésaïe. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours, voilà ce qui fera le zèle de l'Éternel des armées. Une prophétie, entre autres, à travers la parole de Dieu, où David lui-même avait reçu cette promesse en 2 Samuel chapitre 7. Qui suis-je, disait-il, que tu vas non simplement me laisser régner sur Israël pendant les 40 ans qu'il a fait, mais que tu as promis que de mes propres reins, il viendra un jour celui qui régnerait sur ton peuple pendant toute l'éternité. Qui suis-je pour que ça soit le cas? À travers, et j'ai passé quelque temps cette semaine juste de trouver, rien faire avec ce message, mais de chercher combien l'Ancien Testament est rempli de passages et de prophéties explicites sur la résurrection, non simplement la mort de Jésus, mais aussi la résurrection de Jésus, que nous célébrons la semaine prochaine, sans lequel notre foi serait entièrement en vain. La foule connaissait plus ou moins, certaines moins superficiellement que les chrétiens normaux d'aujourd'hui, parce qu'ils étaient très très religieux. Ils avaient chaque soir dans leur foyer, un foyer normal, écouté les passages des prophètes. Ils soulignaient particulièrement les prophéties qui parlaient d'un Messie qui allait venir un jour. Il ne faisait aucune attention avec les prophéties qui garantissaient qu'il devrait mourir parce que des messies ne meurent pas. S'il voit ça, Ésaïe 53 surtout et d'autres, ça doit être pour quelqu'un d'autre ou pour notre pays ou pour quelque chose, mais ça n'a rien à faire avec le Messie. À travers les siècles, la difficulté pour des théologiens juifs jusqu'à présent de interpréter Ésaïe 53 a été très énorme jusqu'au point où certains l'interdisent même de le regarder pour chercher à interpréter parce que s'ils vont jusqu'au fond honnêtement et suivant la logique et les révélations chronologiques, ils ne peuvent pas que terminer par dire ça mène vers Jésus-Christ. Le témoignage d'un juif que j'ai entendu assez récemment, cette semaine même, dans une revue qui venait à la maison chrétienne, qu'il était très jeune dans une famille orthodoxe, quand il est tombé sur Ésaïe chapitre 53, il n'avait que 7 ou 8 ans quand il disait, papa, qui c'est qui est visé dans Ésaïe 53? Et son père regardait avec un regard de colère, prit la Bible, fermait cela, frappait son fils contre le visage et dit, ne me posez jamais cette question. Il n'avait jamais entendu parler de quoi que ce soit dessus. Mais sachez-vous que plus tard, quand il avait quitté la maison et quand il avait le choix, il voulait quand même aller vers cela et chercher à comprendre qu'est-ce que c'est ceci. Et vous avez entendu peut-être aussi le fait que quand un juif reçoit Jésus-Christ comme sauveur personnel et qui regarde pour la première fois après leur conversion, Ésaïe 53, ils sont tellement émus par des émotions. Aujourd'hui, je parle de 2015, ils sont tellement émus par émotions et vaincus par le sentiment que c'est clair, c'est clair, c'est clair, la personne que je rejetais est annoncée. Et je n'avais pas compris. J'avais pas vraiment voulu comprendre. Tel était mon enthousiasme pour propager les traditions de mes pères. Ésaïe 53, et bien sûr la prophétie. Ces gens le connaissaient probablement trop. Pas trop. Mais ils connaissaient beaucoup d'autres qui parlaient d'eux. Du Messie. Qui parlaient de grandes délivrances qui allaient arriver. Et il exaltait comme roi. Alors, des multitudes, combien? Des centaines, des milliers, probablement des milliers, des dizaines de milliers, probablement pas, peut-être. Mais des milliers de gens qui voient que Jésus entre dans la ville de Jérusalem, qui commencent à crier, Hosanna, Hosanna, béni soit le roi, le fils de David qui arrive. Et qui met leur manteau devant lui, qui met les rameaux devant lui, pour qu'il entre dans la ville pendant que Jésus est sur l'anneau en train de pleurer de tristesse à cause de leur incapacité de saisir ce qui est en train de se faire. Et les pharisiens disent, cherchant à se faire taire, la foule n'arrive pas, disent à Jésus, allez, fais taire tes disciples qui ferment leur bouche. Tu sais ce qu'ils disent? Ils te réclament, toi, un petit paysan qui vient de Galilée, ils te réclament comme roi. Alors, si tu as aucune intégrité, aucune honnêteté, aucune humilité, fais leur taire. Dis-leur, non, c'est pas moi. Fais leur taire, vite! Et la troisième chose qui montre la divinité de Jésus dans ce passage, c'est la réponse de Jésus à ces personnes en verset 40. 39, quelques pharisiens au milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et Jésus répond, « Je te le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Ça, c'est un homme, assis sur un anneau, avec deux oreilles, un nez, deux yeux, une bouche, deux mains, comme tous les autres, qui dit, « Tu me demandes de faire taire ces gens. » Je pourrais. Mais Dieu est fait pour glorifier. Dieu est fait pour louer. Dieu existe et l'homme existe pour glorifier Dieu. Dieu existe pour sa propre gloire. Et comme quelqu'un dit, la gloire de Dieu est le plus manifesté dans la satisfaction de ses enfants pour sa gloire. Dieu sait que la joie ultime que l'homme, le plaisir ultime que l'homme peut connaître, c'est quand il reconnaît qu'il existe pour la gloire de son Créateur. Et rien que pour la gloire de son Créateur. Et ça va donc filtrer sur toutes les activités. Ça va mener la direction de sa marche de tous les jours. Et Jésus dit aux pharisiens, si ces gens se taisent, ils sont là aujourd'hui parce que Dieu a voulu qu'ils soient là. Jésus savait que ce qui se passerait était une chose qui terminerait par mener à sa mort. Il savait ce qui se passerait et il dit, si ces gens s'arrêtent de crier, la situation est celle tellement chargée avec la gloire de Dieu que même ces pierres allait commencer de crier la gloire de Dieu. Enfin, ils le font silencieusement. Tout ce que Dieu a créé, et vous connaissez Psaume chapitre 19, qui dit, les cieux racontent la gloire de Dieu, le ciel, les cieux, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains, un jour informe, instruit, éduque, forme un autre jour. Vous savez que la gloire de Dieu a été manifestée aujourd'hui parce que hier il a été manifesté. Hier le soleil s'est levé. Il y a 150 millions de kilomètres loin d'ici, une étoile la plus proche à notre planète. Une étoile qui nous chauffe étant 150 millions. Et il y a des raisons scientifiques. Des raisons, des explications scientifiques. Des raisons, pourquoi? Ah. Tout le monde, Dieu, la parole de Dieu enseigne que tout le monde save. Tout le monde save quand le soleil se lève. Qui doit leur fidélité et leur adoration au Créateur, pas au soleil, comme les adorateurs du soleil, ce que Dieu abhorre, que Dieu déteste, ou l'adorateur des choses créées sur la terre, mais du Créateur de tout ce qui se passe. Les cieux déclarent, raconte la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Un jour informe un autre jour. La nuit donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage. Ce n'est pas des paroles dont le son ne soit point étendu. Le retentissement parcourt sur toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités de le monde. On a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort à sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne dérobe à sa chaleur. Arrête. Former une nouvelle paragraphe, la loi de l'Éternel est parfaite. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Deux sources de connaissance, la création, généralement, la révélation, particulièrement de la parole, la Bible de Dieu. Pour que l'homme sache, sans la Bible, l'homme est inexcusable parce qu'il existe autant dans la création pour que tous les jours ça crie dans son être, dans sa conscience, dans sa réalisation. Il y a une puissance qui existe il y a une puissance à qui tu dois ta santé. Et à chaque fois que quelqu'un est dans un grand danger, instinctivement, il crie vers une divinité, à Dieu. Tu n'as créé aucun athée. Il n'a créé que des croyants qui savent, qui connaissent. Non, qui ne croient pas. Parce que croire, c'est une décision. Mais ils savent. Il n'y a pas assez de, il y a assez pour que l'homme soit accusé sans qu'il y ait même la Bible. Ils ne savent pas que le Créateur nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas la vie éternelle. Les Juifs qui regardaient Jésus sur l'anneau qui entrait, ils savaient même ça. Ils auraient dû savoir ça. Ils avaient les Écritures de l'Ancien Testament. Les Écritures qui étaient pénétrées par plein de passages qui prévoyaient. Et certaines le voyaient. Les prophètes étaient envoyés à chaque reprise où il y avait presque pas de temps où il n'y avait pas un prophète, ou plusieurs, à travers la longue histoire, jusqu'à Malachi le dernier. Et pendant 400 ans, entre l'Ancien Testament et le Nouveau, aucun prophète avant Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est le dernier des anciens, des prophètes de l'Ancien Testament. Et vous dites, non, il est dans le Nouveau Testament. Oui, il est mentionné dans le Nouveau Testament parce que 400 ans est passé, il arrive au temps de Jésus. Attention, il était le cousin de Jésus, 9 mois plus âgé que Jésus, fils de Élisabeth, cousine de Marie. Il était le cousin ou tante. De toute façon, il était parenté. Et il préparait le chemin, il prêchait dans le désert et des milliers venaient vers lui. Êtes-vous le Messie? Non, 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 non. Mais le Messie est celui qui vient après moi. Je n'ai même pas le mérite de toucher le sandal sur ses pieds. Et un jour, il le voyait. Devant la foule, il est là. Voici l'agneau de Dieu qui vient chercher, qui vient ôter les péchés de l'homme. Ça, c'est bien avant cet événement. 3 ans à peu près, 3 ans et demi peut-être, au début de son ministère. Jésus, maintenant, est dans la dernière semaine de son ministère. Les gens qui avaient le temps d'accumuler fait sur fait sur fait et de chercher les Anciens Testaments pour voir ce que Jésus disait sur les hommes sur la route de Emmaüs en Luc chapitre 24 qui pleuraient, nous croyant que c'était le Fils, nous croyant que c'était le libérateur qui allait venir. Jésus était là avec eux à côté. Après sa résurrection, il dit, oh, vous qui êtes insensés, ne saviez-vous pas à travers Moïse et à travers les prophètes, ne savez-vous pas que le Fils de Dieu doit mourir et être sacrifié? Non, ils n'ont pas compris. Certains ont cru ce qu'ils ont pu, mais ils avaient tous mal à saisir. Et Jésus dit maintenant, aux colères des pharisiens, je pourrais faire taire ces gens, mais si je le faisais, le buis ne s'arrêterait pas, parce que même les roches, les cailloux, les pierres, comme la création a toujours été en train de faire, ils allaient crier, gloire à Dieu, dans le lieu très haut. Et il répond donc, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Donc, est-ce que c'était un échec? Ou est-ce que c'est un achèvement? Jusqu'à présent, il y en a qui disent que c'est un échec. Jésus prit les 12. Je mets ce passage ici parce que je veux que vous compreniez. Comme j'ai dit tout à l'heure, Jésus n'était pas insensible de ce qui se passait. Quelques jours auparavant, plutôt quelques semaines auparavant, Jésus avait pris les 12 auprès de lui et il leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. » Attention, tout ce qui a été écrit, a été écrit. Tout ce qui a été écrit, par qui? Par les prophètes, ou dans l'Ancien Testament, au sujet de qui? Au sujet du Fils de l'homme. Jésus s'appelait plus que 80 fois dans les évangiles, Fils de l'homme. Un équivalent de Daniel, où il est appelé, dans cette vision, le Fils de l'homme est descendu sur lui, qui était un être divin. Jésus a pris ce titre pour lui-même. Il serait crucifié pour ce titre, qui va le dire devant le Sanhédrin en quelques jours. Il a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme, que ceci s'accomplira, car il sera livré aux païens. Pierre, tu comprends? Jean, tu comprends? Matthieu, tu comprends? Le Fils de l'homme sera livré aux païens. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se moquer de lui. Ils vont l'outrager. Ils vont cracher sur lui. Le Fils de l'homme? Et après l'avoir battu de verge, on va lui faire mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Je ne crois pas qu'ils avaient même entendu cette dernière phrase. Quand Matthieu rapporte ce que Jésus venait de faire, et Pierre se met à la défense, « Arrête Jésus, ne t'inquiète pas, je ne permettrai pas que ça t'arrive. Je t'assure que je vais battre jusqu'à la mort, mais tu ne vas jamais mourir. » Arrière, moi, Satan, pas Pierre, Satan, parce que tu ne connais pas les choses de Dieu. Tu n'arrives pas à saisir ce qui est en train de passer. Jésus, propulsé sur cet anneau, pleurant sur la ville de Jérusalem, à cause de la joie qui était devant lui, ne succombait pas à quoi que ce soit. Et c'est ce qui nous invite en Hébreux chapitre 12, de le faire. Vous n'avez pas résisté jusqu'au sang. Acceptez la correction du Seigneur, pas la punition en tant que chrétien. Christ a reçu son... Dans 5 jours, il va recevoir la punition pour tous ceux qui vont croire en lui. La vengeance de la loi sera satisfaite, sera apaisée, sera neutralisé. La conscience de chaque croyant et sera libéré, pas simplement parce qu'il sera pardonné, mais toujours coupable, malgré le pardon, merci, mais il sera justifié par imputation des justices de Dieu sur lui, pour que non simplement est-ce qu'il n'est plus coupable, il est... Et pas condamnable, il n'est que justifiable. Ce que nous avons discuté l'autre jour, Pierre. Ils vont cracher sur lui, ils vont traiter comme le pire d'être humain. Et vous le savez, la crucifixion était réservée pour le plus vil de la terre. Un Romain n'était pas permis d'être, il n'était pas permis de crucifier un Romain pour aucune raison. Malgré les choses basses qu'il aurait pu commettre, il n'est pas aussi loin, parce qu'il est Romain, d'être crucifié. Ça, c'est réservé pour des ennemis de l'État, des personnes, des esclaves, des personnes qui se mettent contre l'État ou qui fait une révolution ou quoi que ce soit, mais pas pour les Romains. Et de être nu dans la honte, parler de la croix Autant que Paul dit « je glorifie dans la croix », c'était vraiment contre-culturel. C'était vraiment mal faire dans la culture. C'était un mot que chez les païens et chez les juifs n'était pas répété en public. Le dégoût qui sortait à cause de cet instrument de exécution était même pas parlé entre des personnes civilisées et de haute culture, et même de moins haute culture. Paul dit, je me glorifie dans la croix. Loin de Dieu, si je presse rien à part la croix. Soulignez le mot croix pour pas simplement dire la mort de Jésus-Christ, mais la manière à travers laquelle Jésus lui-même a décidé de donner sa vie. Et Jésus a dit, écoute, nous allons à Jérusalem, mais ne croyez pas que c'est eux qui me font tuer. J'ai le pouvoir de donner ma vie, et j'ai le pouvoir de reprendre ma vie. Ça, c'est le Jésus, frère et second Christ, que nous servons. Échec ou achèvement sont cachés de leurs yeux. Mais Jésus savait. Les disciples ne le savaient pas encore. Ils cherchaient à comprendre, ils cherchaient à saisir les choses que disait leur maître, mais parfois, ils ont dû se dire, mais ça c'est sa manière de parler. Ça doit être quelque chose de mystique à l'intérieur de lui, mais ça n'a rien concerné. On n'arrive pas à comprendre ça du tout. Mais Jésus leur avait déjà dit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur a été dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et en entendant, ils ne comprennent point. Une réponse à la question, pourquoi tu parles tout le temps en parabole, en illustration, en proverbe, en énigme? Mystère, parce que il est donné pour que vous compreniez. Autrement, ça ne sera juste une illustration, c'est tout. Pour ceux qui ne voient pas. Pour terminer, quand Moïse était dans le désert avec Dieu, et qu'il a voulu être plus proche à Dieu, il dit, oh Dieu, laisse-moi voir ta face. Tu dis, non, c'est pas possible. Tu ne peux pas voir ma face et vivre. Personne ne le voit pas. Mais je ferai passer, Moïse, devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Qui veut dire, peu importe ce qui va arriver dans l'avenir, moi, le souverain des souverains qui est plein de grâce, qui est plein de miséricorde, je fais grâce à qui je veux, et je fais miséricorde à qui je veux, et personne ne peut dire autrement. Et il faut qu'il aille jusqu'à la croix, parce que sans qu'il aille jusqu'à la croix, il peut gracier des personnes pendant qu'ils sont ici sur la terre. Il peut protéger une personne pour qu'il ne tombe pas, précipite dans un trou. Il peut guérir une personne malade pour qu'il vive encore une vingtaine, trentaine d'années. Mais ils vont quand même terminer par mourir. Et ce serait une mort qui judiciairement condamne cette personne à la vie, parce qu'ils sont injustifiables devant la justice de Dieu.
La justice ne peut jamais juste balayer les choses en dessous de moquette pour recommencer à zéro. Parfois, la justice humaine ne peut faire que ça. Il ne cherche pas à faire. Il y aurait des gens qui crient « Injuste, injuste !» Et nous entendons ça tout le temps. L'homme a intérieur de lui, ce nécessité de vouloir justice d'une côté, mais jamais sur lui seul, mais sur les autres. Il a terminé par manipuler ses propres idées pour qu'il puisse se justifier pour presque n'importe quoi, parce que les désirs de l'homme sont plus forts en lui que son sentiment de justice sur lui-même. Désir, ce que je dis, désir, est plus fort que obéir à la loi de Dieu. Et donc, un enfant devant un biscuit que maman a dit « Non, touche pas. » Il n'a que 2 ans. Il sait qu'il touche, maman va faire taper comme ça et il va pleurer. Mais il pose la même question que vous posez quand vous péchez. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Je sais que je ne devrais pas. Ou je sais que je ne dois pas. Mais je calcule que le coup que je reçois vaut le plaisir que je vais avoir. Et l'enfant fait ça, il prend ça, il mange. Il a presque fini quand maman arrive et fait ça. Et il pleure. La prochaine fois, ça sera 2 biscuits. Chers amis, nous sommes inéchappables dans un infernal déroutement de la justice de Dieu, à moins que quelqu'un qualifié de l'extérieur vienne à notre secours. Bonne chance pour notre salut. Pas une question de chance. La Bible dit que celui qui n'a point connu le péché, Jésus, sur la route de sa crucifixion, bien que les autres pensaient c'était le jour de son couronnement. Non, il sera couronné, mais pas ce jour-là. Il doit devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et je termine par le verset que nous avons commencé notre culte ce matin. Après dire aux ânes, bien est celui qui vienne au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Il chantait un cantique nouveau. Nous lisons en Apocalypse, et là nous a lu cela ce matin. Il disait, tu as été immolé. À la fin du temps, en Apocalypse, tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Parce que Jésus, pleurant sur cette route de gloire pour les autres, sachant qu'il allait directement vers une crucifixion et ignominie, qui n'a jamais été dupliqué. Il allait là, exprès, en n'importe quel moment, il aurait pu appeler une légion de anges, de soldats célestes, Pierre, mets ton épée dans ta poche. Ne sais-tu pas, dans le jardin de Gethsémané, quand les soldats venaient et Pierre prend son épée pour protéger Jésus comme il avait promis? Ne sais-tu pas que je peux appeler les légions de anges pour me sauver? Mais mon heure est venue. La raison pour laquelle je suis venu, mon ambition de l'éternité, arrive. Comment est-ce que tu peux dérouter mon désir de sauver des millions et des millions par mon sang? Demain matin, entre 9h et midi. Il est allé jusqu'au bout pour que de toutes les tribus, de tout le peuple, de toute nation, qui que ce soit qui croit en Jésus-Christ comme leur remplaçant devant la justice divine, puisse recevoir sa justice, un grand prix, pas pour vous, pour lui, parce qu'il allait accepter la justice jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Prions.